Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, elle l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit, gardant ainsi leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent alors saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une très grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et puis à la fin du chapitre, il nous est dit que Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. Alors bienvenue à vous, franchement, bienvenue à vous, petits et grands, c'est un cadeau d'être ensemble pour cette nuit de Noël. Vous avez affronté le froid, la bise, c'est un témoignage d'espérance pour le monde, pour notre monde. Vous êtes sortis dans la nuit, bravé la fatigue, vous avez été mis en marche par cette voix de Jésus-Christ. Merci, vous êtes inspirants. Et puis c'est vrai que ça nous permet de chanter ensemble, et quand on chante, on prie 5 fois, paraît-il. Donc je vous propose de prendre page 382, le premier cantique, « Il est né, le divin enfant ». Ou alors le 32-29, si vous préférez les gros numéros. « Il est né, le divin enfant », dont je vous propose de chanter les 3 premières strophes. Ouvrons nos cœurs. En Christ, Dieu vient à nous. Il nous apporte sa grâce, sa miséricorde et sa paix. Et cela, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse en Christ. Gloire à toi, ô notre Dieu et notre Père. Tu nous as donné celui qui ouvre toutes les espérances, bien au-delà de ce que nous pouvions espérer. La joie que tous cherchent à tâtons, le salut que les prophètes des temps anciens avaient à peine entrevu, tu nous les as donnés en Christ. Ton amour, ta lumière, ta libération et ta paix. La confiance totale que nous pouvons avoir en toi, il nous l'a apportée. Ta parole faite chair, source de retournement de situation, source de mille bonnes surprises dans notre vie, source de courage pour nous aider à nous-mêmes être une bénédiction autour de nous. Seigneur, tu es la source jaillissante de vie en nous. Alors avec tous tes enfants rassemblés dans le monde, pour Noël, nous te rendons grâce pour tous tes dons pour nous. Alors je vous propose de prendre le cantique « Ô peuple fidèle, adeste fideles » comme disent ceux qui parlent latin. C'est le 32-22, « Ô peuple fidèle » dont je vous propose de chanter les trois strophes. L'apôtre Paul est au fond d'une prison à Rome, attendant un jugement assez improbable. Et de sa prison, il envoie une lettre très sympa aux chrétiens de la ville de Philippe. Et dans le tout début de cette lettre, il met en valeur l'essentiel de ce que nous apporte le Christ. Et cela va nous permettre de découvrir pas moins de 3 cadeaux au pied du sapin de Noël. 3 excellents cadeaux, fort utiles, fort joyeux, qui nous ont été préparés avec amour par notre Père qui est dans les cieux. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec leurs épiscopes et leurs diacres, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j'évoque votre souvenir, toujours, en chaque prière pour vous tous. C'est vraiment avec joie que je prie à cause de la part que vous prenez avec nous à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Telle est ma conviction, celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors il est bien juste et normal pour moi d'être ainsi tellement bien disposé à votre égard, puisque je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité comme dans la détresse et l'affermissement de l'Évangile, prenez tous une part excellente à la grâce qui m'est faite. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ma prière pour vous, que votre amour abonde encore et de plus en plus, qu'il abonde en clairvoyance et en pleine intelligence pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ. Comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors avant de méditer ces Écritures, je vous propose de prier en suivant du cœur cette prière de Calvin. Ô Dieu éternel et si puissant, puisque tu as commencé en nous l'œuvre de ton Saint-Esprit et que tu as daigné nous faire participer à l'Évangile de ton Fils, fais que nous puissions grandir toujours en vraie connaissance de toi. Fais que notre amour abonde de plus en plus en intelligence et en toute science, afin que nous discernions les choses qui importent vraiment. Fais que nous soyons de plus en plus sincères, sans reproche, remplis de fruits de justice qui nous sont donnés par Jésus-Christ, à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Alors dans cette lettre de l'apôtre Paul, dans ses premières lignes, je relève trois excellents cadeaux, fort utiles et joyeux, mais comme souvent les cadeaux c'est un peu emballé, on ne les découvre pas forcément tout de suite dans cette prose toujours un peu complexe de l'apôtre Paul. Le premier cadeau, c'est un moteur d'évolution puissant. Alors je vous lis le verset 6. « Telle est ma conviction, dit Paul, celui qui a commencé en vous son œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Il existe donc de la nouveauté en ce monde. C'est ce que remarquent les scientifiques, les astronomes, les géologues, les paléontologues. C'est ce que remarquent aussi les théologiens et les croyants en observant ce don qu'est Jésus-Christ pour le monde. Et puis vous-même, vous êtes une nouveauté étonnante dans ce monde, une pièce unique, une œuvre d'art. S'il existe donc de telles nouveautés radicales dans cet univers, dans ce monde, c'est qu'il y a une source de nouveauté, c'est qu'il y a une source de création, ou plutôt une source d'évolution, puisque l'évolution se poursuit, nous dit Paul. Appelons simplement Dieu ce qui fait source de bonnes nouveautés dans notre monde et dans notre vie, ce qui est source d'évolution positive. Paul nous dit que Dieu n'arrêtera pas son œuvre, qu'il la poursuit avec patience encore et encore. C'est normal puisque c'est sa nature d'être source d'évolution. Et donc le premier cadeau que nous donne le Christ, c'est donc de savoir qu'il existe un puissant moteur d'évolution bonne dans ce monde et que nous en sommes au bénéfice pour qu'il nous rende meilleurs d'étape en étape tout au long de notre existence jusqu'à l'extrême grand âge. C'est très concret. Notre évolution est en cours et elle est très prometteuse, nous dit Paul. Mais bien sûr, toute création commence par un début, comme l'enfant de la crèche. La question n'est donc pas tellement le niveau auquel nous en sommes arrivés à ce point aujourd'hui, par rapport à l'idéal qu'est Jésus-Christ, idéal de foi, d'espérance et d'amour. Quel que soit notre niveau aujourd'hui, le premier cadeau, c'est que nous sommes au bénéfice de ce moteur d'évolution pour grandir, pour avancer encore. Et c'est un cadeau, nous dit Paul. Il ne nous dit pas « faites un effort pour progresser ». Il nous dit que Dieu y travaille de son côté comme un service qui nous est offert chaque jour pour nous faire grandir, pour évoluer dans le bon sens, pour devenir meilleurs, pour devenir nous-mêmes mieux source d'évolution, de bonne évolution autour de nous. Et Paul dit que Dieu y travaillera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors cette histoire de jour de Jésus-Christ, ça a pu faire peur, ça a été exploité par des prophètes de malheur, des philippulus, comme dirait Tintin. Mais non, ce jour du Christ, c'est ni demain ni dans 1000 ans, c'est chaque jour qui est le jour du Christ. C'est ce que nous fêtons à Noël. Le Christ est venu, le Christ vient, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce que nous fêtons à Noël. Dieu est donc comme un moteur qui nous fait avancer, et en plus, il nous offre ce moteur pour que nous puissions, à notre niveau, être source de bonnes surprises en ce monde, et ça aussi, c'est un cadeau, et dans le langage théologique, ça s'appelle tout simplement le Saint-Esprit. Après ce premier cadeau, le second cadeau, le deuxième cadeau plutôt, c'est une joie partagée qui arrive même dans la détresse. Au verset 3, je relis ce que Paul dit à nos amis de Philippe. « Toujours en chaque prière pour vous, c'est avec joie que je prie à cause de la part que vous prenez avec nous à l'Évangile. » Et donc Paul se réjouit, il est pourtant au fond d'une prison assez inquiétante. Marie et Joseph n'était pas très à l'aise non plus, en voyage, enceinte, il n'y a pas d'hôtel, ils sont loin de chez eux. Et puis l'époque, vous savez, était bien plus troublée encore que notre époque d'aujourd'hui, bien plus violente encore. Et puis ils ont cette joie incroyable de la naissance de leur fils et de découvrir combien il est important. Et ainsi, ce deuxième cadeau que nous pouvons trouver au pied de notre sapin de Noël aujourd'hui, c'est que Dieu nous rend visite pour nous apporter ce don qu'est la joie. Quelle que soit notre situation, il vient même, nous dit cette histoire de Paul, particulièrement quand nous sommes coincés, quand nous ne voyons pas d'issue, quand nous sommes comme en prison. Paul ne nous dit pas « soyez joyeux » comme si c'était un ordre. Non. Paul nous dit que c'est un cadeau qui vient de la part de Dieu dans la prière. En effet, c'est ce que fait Paul ici. Il pense aux Philippiens et ça le remplit de joie. Nous-mêmes, quand nous pensons à telle ou telle personne que nous aimons, nous pouvons ressentir, même dans la peine, une grande joie, une gratitude pour cette personne. Or, nous avons de quoi penser, car tant de personnes, depuis notre naissance jusqu'aujourd'hui, sont venues à notre aide, nous ont apporté quelque chose généreusement. Tel parent, tel ami, tel professeur, tel médecin, tel voisin, qu'importe. Chaque petit geste de bonté proclame la bonne nouvelle que la bonté existe. Donc chaque fois qu'un petit geste de bonté existe, l'Évangile est proclamé et c'est source de joie pour celui qui y fait attention. Or, dans notre humanité, dont on se plaint aujourd'hui, telle qu'elle est, les petits gestes de bonté sont absolument innombrables. À commencer par l'amour de Dieu manifesté en Christ pour nous. Amour qui inspire tant de personnes partout dans le monde, depuis des générations. C'est pourquoi, quand nous prions, il nous vient au cœur une louange pour la vie, pour cette vie que nous vivons malgré ses douleurs. Il nous vient la joie de faire partie de cette vie, de faire partie de cette humanité, en réalité si belle, et en faire partie de ce monde. Vient ensuite le troisième cadeau. C'est un amour intelligent, ou l'intelligence de l'amour, si on veut, qui nous donne du discernement. Au verset 9, « Voici ma prière, dit Paul, que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et en pleine intelligence pour discerner littéralement ce qui surpasse. » Le troisième cadeau que nous recevons nous, du Christ, nous dit Paul, c'est l'amour. Bien sûr, vous vous y attendez. Seulement Paul semble dire que ce cadeau n'est pas gagné d'avance puisqu'il est obligé de prier pour qu'il vienne. Est-ce que le troisième cadeau aurait pris du retard? Il serait plutôt en cours, à vrai dire. En cours d'approfondissement, peut-être. Paul prie donc pour que nous ayons plus d'amour. Mais pas seulement. Il prie surtout pour que notre amour soit de plus en plus intelligent. Que cet amour devienne pour nous comme un sixième sens, en plus des cinq autres sens, fort utiles aussi, qui sont aussi des sources de bénédiction. Alors j'ai été recherché quand même, pour ne pas me tromper. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et puis il y a encore ce sixième sens, l'amour intelligent. C'est une faculté donc très utile et féconde, créatrice. À l'occasion de cette prière de Paul pour que nous ayons plus d'amour et une meilleure qualité d'amour, nous voyons que Paul a une pensée fort subtile, dont je me plaignais un peu au début de ma prédication. Mais c'est une qualité aujourd'hui, à mon avis, fort essentielle en notre temps, où il semble que les idées, se simplifient et se durcissent à l'extrême. Alors c'est une qualité essentielle d'avoir donc cette intelligence, cet amour intelligent qui permet de discerner, d'affiner. En notre temps, donc, où les idées semblent se durcir, parce que ça met facilement ces idées durcies, ça met facilement de la mauvaise ambiance pendant les fêtes de Noël en famille, ou bien dans la politique, ou dans les relations internationales, ou bien sur les réseaux sociaux, ou encore plus, avec des jugements à l'emporte-pièce, des idéologies brutales, des méchancetés invraisemblables dans tous les camps. Ce travers nous vient en fait de loin. Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et génial par ailleurs, a formulé le principe qu'on appelle le tiers exclu. Vous l'avez peut-être appris à l'école, dans les cours de mathématiques. Donc, pour résumer, ce principe du tiers exclu, ça considère qu'une porte, elle est soit ouverte, soit fermée, en excluant toute autre possibilité. Alors c'est très pratique, ce principe du tiers exclu, pour modéliser ainsi le réel, car ça permet des raisonnements très simples. Mais le problème, c'est pour ce qui est de la vie, c'est un chouïa plus compliqué. Et cette logique à simplement binaire, oui ou non, eh bien c'est tellement grossier que ça peut en devenir nocif. Une porte, par exemple. On a fermé les portes de ce temps parce qu'il y a la bise dehors, d'accord. Mais celle qui est à l'extérieur, elle est entrouverte encore. Une porte, elle peut être plus ou moins entrouverte. Il y a des degrés d'ouverture de la porte. Et puis une porte, elle peut être en mouvement. Elle peut être en train de s'ouvrir. Eh bien, cela change tout de penser comme ça, avec des nuances, de tenir compte de ces nuances. Et c'est le cas en ce qui concerne notre amour, nous dit Paul. Il prie pour que nous ayons plus d'amour. Ben, c'est donc que nous aimons déjà un peu, mais que nous pourrions aimer plus. Ben, déjà ça sort de la logique d'Aristote. Notre capacité à aimer n'est ni zéro ni un. Elle est entre les deux. Mettons à 0,52 aujourd'hui, ce qui est déjà très réjouissant, mais ce n'est pas tout, nous dit Paul. Notre capacité à aimer, elle peut évoluer avec le temps, passer demain à 0,53 peut-être. C'est pourquoi Paul prie pour que nous aimions plus. Mais ce n'est pas tout. Paul prie pour que nous aimions mieux, plus intelligemment. C'est-à-dire qu'avec un même degré d'amour, même à 0,52 seulement, il y a différentes qualités d'amour qui existent. Donc on est très très loin du jugement binaire d'Aristote. Paul prie pour que nous ne discernions plus seulement les choses de la vie comme figées et en noir et blanc, mais pour que nous puissions les voir en nuances, en couleurs, en relief et en évolution. Alors comment faire cela? Eh bien la qualité essentielle pour y arriver, nous dit Paul, c'est l'amour. Un amour intelligent qui permet de discerner dans une réalité mitigée justement ce qui est bon, pour le garder, pour l'aider à le développer, pour envisager, pour espérer une bonne évolution de ce meilleur. Et donc c'est extrêmement précieux et vivifiant. C'est pourquoi Paul prie pour que nous aimions plus, mais aussi que nous aimions mieux. Mais quand même, ne nous jugeons pas trop durement, nous dit Paul. Nous sommes déjà très bien. Il dit que Dieu a déjà commencé en nous son œuvre magnifique, c'est donc que nous sommes déjà capables d'aimer, bien sûr. Il y a donc à la fois du bien à constater dans notre qualité d'amour, mais aussi des progrès à attendre. Mais en plus, nous dit Paul, cet amour, en plus d'être source de joie et source d'évolution, cet amour, il est clairvoyance. Car l'amour, il va faire la part des choses. Il est capable de discerner, ne serait-ce qu'un minuscule bébé Jésus, dans l'immense empire romain, entouré de peuplades barbares, toujours en guerre, plus ou moins. Eh bien, l'amour a pu discerner cette infinie qualité d'amour perdue quelque part dans une sombre étable, improbable, dans une bourgade peu connue. L'amour voit et se réjouit de cette infinie qualité d'être. Mais il s'en réjouit sans naïveté, parce qu'il faut voir aussi les rois Hérode et les armées qui vont chercher à tuer cet enfant. L'amour est ainsi une capacité de clairvoyance, et nous dit Paul, c'est une capacité de discernement. Littéralement, c'est une capacité de trouver ce qui pourrait surpasser l'état présent. L'amour intelligent est donc le troisième et le plus essentiel cadeau qui nous est donné en Christ. Aussi peu que ce soit, il est source de grande, grande joie. Et donc pour ce don en particulier, mais aussi pour la joie et pour la capacité à évoluer, grâce te soit rendue, ô notre Dieu. Amen.
Thank you.
Et je vous propose de prendre le cantique « Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël », les trois premières strophes de ce cantique. Vous l'avez même les paroles en allemand, si vous êtes plus des mangeurs de rösti, plus que des mangeurs de foie gras, paraît-il. Non, c'est page 374, le 32-23, « Ô nuit bienveillante ».
Je vous invite à la prière. Gloire à toi, Éternel notre Dieu. Tu es notre joie, tu es notre vie, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Avec tous tes enfants rassemblés partout dans le monde pour ce Noël, avec tous les croyants de tous les âges, avec tous ceux qui cherchent en Jésus-Christ le salut que tu veux pour chacune et chacun, nous te rendons grâce. Vienne ta parole éternelle résonner en ce monde. Nous avons soif de l'accueillir. Qu'il vienne, Jésus le Christ. Qu'il demeure avec nous, qu'il demeure en nous. Illumine notre foi et notre espérance. Qu'il inspire notre façon d'aimer, nos actes et nos paroles pour ceux qui souffrent. Avec ton Fils, nous ferons naître une aurore en notre humanité pour un monde plus fraternel, plus juste et plus ouvert à ton souffle de vie. Ô Dieu que Jésus nous a fait connaître. Et ensemble, nous nous unissons dans sa prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Grand merci à Michel Sibils, donc il est membre du conseil du consistoire, venu en signe d'amitié, de fraternité à l'égard de vous tous et puis de cette belle paroisse de Cologny, Vendeuvre-Choulet. Alors vous le savez peut-être, l'église protestante, elle a en fait, j'allais dire, deux évêques. Il y a le conseil de paroisse et puis il y a le consistoire. Donc le consistoire, il est constitué de délégués de chaque paroisse et il prend les décisions qui concernent l'ensemble de l'église protestante de Genève, des relations aussi avec les autres églises, et puis le conseil de paroisse prend les décisions en ce qui concerne plutôt la paroisse locale. Donc on est reconnaissant que vous soyez là, ça marque vraiment l'unité de notre église au-delà de notre paroisse. Grand merci à Kisun Bosso et à Norberto Broghini pour cette musique qui a mis de l'émotion, de la beauté au cœur d'un culte qui sinon aurait été peut-être par trop cérébral. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir constitué ce culte, en particulier par le chant, et c'est vraiment très précieux. Nous allons avoir donc le dernier chant, Voici Noël, ô douce nuit, et pendant ce cantique, donc, qui est page 384, numéro 3230, Voici Noël, ô douce nuit, et bien il y aura l'offrande qui sera recueillie, qui est un geste aussi de consécration de notre personne pour que l'évangile du Christ puisse être annoncé dans ce monde qui en a tant besoin. Voici Noël, ô douce nuit.
Thank you.
Merci, vous formez une magnifique chorale. Donc vous, maintenant, nous allons recevoir toutes et tous la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu. Ensuite, nous avons donc un dernier morceau de Bach et nous pourrons ensuite aller partager un vin chaud, un jus de pomme chaud, des biscuits, des chocolats, ce que nous ont préparé nos conseillers de paroisse. Grand merci à eux et un immense merci à vous d'avoir été là. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui nous assemble en un seul corps sont avec vous, demeurent avec vous tous les jours, demeurent avec vous pour votre vie entière et pour l'éternité. Béni sois-tu, ô Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. Joyeux Noël à chacun de vous. Amen.